Je me suis dit, ce serait bien de parler de la Vierge Marie, d'autant plus que vous le savez, la communauté a un aspect marial développé, et pour nous, dans notre spiritualité, la Vierge Marie compte beaucoup, et de voir ce qu'en dit le catéchisme. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais vous avez déjà trois feuilles, six pages, donc c'est déjà pas mal, je ne suis pas sûr qu'on fasse tout. Mais c'est intéressant de méditer sur la Vierge Marie, parce que, au fond, toute l'application de ce que nous donne Jésus, nous le retrouvons en Marie. Au fond, Marie, je me rappelle, j'ai été marqué par ça quand j'ai fait mes études de théologie, en Marie convergent toutes les affirmations qu'on peut dire sur Dieu, qu'on peut dire sur Jésus, sur le Père, sur l'Esprit Saint, sur l'Église, sur les sacrements. Quelque part, en Marie, si on veut voir, entre guillemets, si une intuition théologique est juste, eh bien, on l'applique à la Vierge Marie. Alors, c'est intéressant, parce que Marie est personne humaine. Et tout le plan de Dieu est quand même pour le salut des hommes. Et donc, en Marie, on a cette affirmation, cette découverte de comment le plan de Dieu se réalise dans l'humanité, dans une personne humaine particulière. Vous savez que Jésus est personne divine, n'est pas personne humaine. Hein, et donc, du coup, voilà. Donc, ça, je trouve ça important de... Parce que, quelque part, en Marie, on s'identifie davantage. Parce que, forcément, elle est plus proche comme personne humaine. Hein, donc, et aussi, on s'identifie parce qu'elle est disciple. Elle est vraiment celle qui est disciple. Hein, et donc, s'appeler comment on voit qu'on est disciple de Jésus, eh bien, on regarde la Vierge Marie. C'est ça, être disciple, c'est ça, c'est la suite du Christ. Marie, c'est celle qui est le modèle de la suite du Christ. Le modèle pour tous les saints, le modèle aussi pour chacun d'entre nous. Donc c'est... Et non seulement modèle, mais en plus aide. C'est un modèle et c'est une aide. C'est un soutien. Nous croyons, on ne l'a pas abordé encore, mais la communion des saints... Nous croyons à la communion des saints, c'est-à-dire que nous croyons qu'il y a une communion avec l'Église invisible, les fidèles défunts qui sont déjà auprès du Seigneur, et nous croyons, et de façon tout à fait singulière, avec la Vierge Marie, qui a une communion, ce qui fait qu'il y a un soutien du ciel, et singulièrement de Marie, par sa position toute particulière, qui vient nous aider à être disciples de Jésus. Donc non seulement elle est modèle, mais elle est soutien. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Elle ne se désengage pas de notre réalité, de même que Jésus est de notre réalité terrestre. Hein, c'était l'oraison au moment de l'ascension, hein, voilà, on insistait beaucoup dans les oraisons, dans la messe de l'ascension, pour dire, voilà, il faut tourner notre regard vers le ciel, mais en même temps, Jésus lui-même ne se désengage pas de nos réalités terrestres, mais ce qui est dit de Jésus est aussi dit de Marie. Hein, mais comme créature, Jésus comme Dieu. Alors, j'ai fait une sélection dans le catéchisme, parce qu'il n'y a pas toutes les mentions de la Vierge Marie dans cette partie-là. La première, je pense qu'on l'avait déjà vue, donc on va passer assez rapidement. On l'avait vue dans notre topo sur le credo, le premier topo, je crois, hein, ça on l'avait vu. Donc, Marie, bienheureuse, celle qui a cru. La Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueillit l'annonce et la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'est impossible à Dieu, et donnant son assentiment, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Élisabeth la salua, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Et pendant toute sa vie, et jusqu'à sa dernière épreuve, lorsque Jésus, son fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas vacillé. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation de la plus pure de la foi. Voilà, c'est vraiment, on l'appelle la mère des croyants. Autant on appelle Abraham le père des croyants, mais autant Marie est appelée la mère des croyants. C'est celle qui nous donne, dans la suite du Christ, un modèle de foi. Et Jean-Paul II dira, elle a engendré par la foi. elle a engendré par la foi. C'est-à-dire que c'est vraiment cette foi en la promesse de Dieu qui caractérise toute l'histoire de la Vierge Marie et son dessein particulier. Et donc, pour nous aussi, ça veut dire que pour nous aussi, on est vraiment soutenu par cette vision de Marie, de voir que elle a peut-être eu des épreuves dans la foi, dont la grande épreuve qu'est la crucifixion, mais elle a vraiment fait confiance au Seigneur. C'est celle qui nous apprend aussi comment on fait confiance à Dieu et dans les promesses de Dieu et dans les paroles de Dieu. Nous avons reçu les paroles de Dieu au moment, dans les évangiles. C'est la parole de Dieu qui nous est transmise dans l'Ancien Testament aussi. Est-ce que je fais confiance à cette parole qui m'édite? Ou est-ce que je le prends, mais je prends et j'en laisse? Marie, elle a fait complètement confiance. Elle s'est complètement abandonnée. Et donc, du coup, je pense que c'est pour nous un véritable soutien. Un véritable soutien pour chacun d'entre nous, de reprendre conscience que c'est possible de rentrer dans une confiance totale auprès du Seigneur. Et de lui demander ça, de lui demander la grâce de la foi. De lui demander la grâce de la foi. Voilà, donc ça c'est, du coup, surtout quand on est tenté, nous sommes tentés, Marie a peut-être été tentée, Jésus a été tenté, donc il est probable que Marie ait été tentée. Donc, mais la tentation n'est pas le péché. Donc c'est intéressant de voir par rapport à notre foi, parfois on est tenté, on se dit, mais est-ce qu'on a bien raison de croire? Parce qu'on croit quand même en des choses incroyables, d'une certaine manière. Hein, je reconnais ça avec moi. C'est quand même particulier, notre foi. Ben justement, ça apprend à... Quand on ne comprend pas quelque chose, et on va voir des mystères concernant la Vierge Marie, quand on ne comprend pas quelque chose, ben... C'est comme Marie, dans le oui qu'elle a dit au début, elle n'a pas tout compris. Elle s'en est remise au Seigneur. Et c'est progressivement que s'est accomplie en elle la parole de Dieu. Mais dans notre vie, c'est pareil. C'est exactement pareil. Dans notre vie, on ne comprend pas tout. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui, voilà, c'est... Parce qu'il nous faut du temps pour mûrir, parce que peut-être on n'en a pas l'intelligence tout de suite, parce qu'il y a d'autres événements qui viennent éclairer tel ou tel événement de ma vie. Ben, en Marie, c'était pareil. Elle a grandi dans la foi. C'est ça qui est formidable en Marie, c'est qu'elle a grandi dans la foi. Vraiment, on peut s'assimiler à elle et puis lui demander un soutien, parce que ben voilà, apprends-moi à croire comme toi tu crois et à faire confiance comme tu fais confiance dans notre prière auprès de la Vierge Marie. Et c'est bien aussi de revisiter, à l'occasion du mois de mai en particulier, ben, où en est notre dévotion mariale, où est-ce que ça en est dans notre vie de prière, dans notre vie de foi, quelle place occupe la Vierge Marie? Donc, vous savez, dans l'Église catholique, comme dans l'Église orthodoxe, et ce depuis les premiers temps de l'Église, Marie avait une place absolument particulière. Hein, non seulement comme mère de Jésus, hein, mais aussi comme exemple de suite du Christ. Voilà un peu la partie de bienheureuse celle qui a cru. Ensuite, il y a une autre partie quand le catéchisme parle de conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Et donc toute cette partie qui suit est issue, donc on fait un saut, est issue de ce passage-là, de la méditation sur le credo. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment une respiration, la foi. Nous avons beaucoup médité sur la vie de Jésus, etc. Mais ce que nous croyons, la dernière fois on a parlé de la résurrection, ce que nous croyons du Christ, eh bien le Christ est venu, au fond, nous le croyons aussi comme créature de la Vierge Marie. L'un comme personne divine, l'autre comme créature. Par exemple, la résurrection. L'ascension, on va prendre l'ascension, quand on a fêté l'ascension, l'ascension, vous avez l'ascension et l'assomption, c'est pas pareil. L'ascension, Jésus est monté, nous dit les Écritures, avec son corps et son âme au ciel. L'assomption, mais parce qu'il est monté, il est de par lui-même, parce qu'il est Dieu, mais l'assomption, ça vient de assumer. Marie a été assumée, et donc, quand on croit le dogme de l'Assomption, qui est un des derniers dogmes proclamés dans l'Église sur la Vierge Marie, c'est marrant, les derniers dogmes dans l'Église sont le Mario. Ça s'appelle qu'à la Vierge Marie. Mais l'Assomption, oui, ça ne nous étonne pas de croire que Marie, avec la place particulière qu'elle avait dans la vie de Jésus, ait été associée aussi à cette glorification de l'âme et du corps. Donc on verra tout à l'heure, mais vous voyez, c'est ce qui s'applique à Jésus, je l'applique à Marie, et ce que je sais de la Vierge Marie, évidemment, éclaire ma foi au Christ. C'est vraiment un aller-retour. Ça, vraiment, c'est comme un entre guillemets, sans manquer de respect, mais un travail, c'est les travaux pratiques. Voilà, on voit comment ça s'est passé. Le dessein de salut du Christ, comment ça s'est passé en Marie, voilà comment ça passera aussi en nous. Alors Marie de façon tout à fait particulière, parce qu'elle a aussi une vocation spéciale. Dieu a envoyé son Fils, mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Le Père des miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de la mort, de même une femme contribua aussi à la vie. Alors, ça, c'est une question qui est... Marie était-elle libre ? On peut se poser la question. Parce qu'il y a un choix de Dieu, et un choix de toute éternité, parce que comme tous les choix de Dieu, le reste. Ce n'est pas simplement la Vierge Marie. Le choix de Dieu, comme Dieu est dans l'éternité, forcément, le choix de Dieu est de toute éternité. Les choix de Dieu, pour nous, sont de toujours à toujours. Donc, voilà, il avait désigné dans son plan de salut pour sauver la créature humaine qui a nié l'appartenance à Dieu par le péché originel. Il a voulu s'incarner, et pour s'incarner, il fallait bien... Donc il y avait le choix, l'appel d'une jeune femme, jeune juive de Nazareth en Galilée. Et donc, était-elle libre ? C'est vrai qu'il y a une forme de prédestination. Je veux dire, mais prédestination, on est tous prédestinés à la sainteté. Parce qu'on voit la prédestination de façon... pas tout à fait juste. On le voit comme un manque, il n'y a plus de liberté personnelle. Non, c'est pas ça. La prédestination, c'est-à-dire qu'on est appelé à quelque chose, Dieu nous a appelé à quelque chose, mais on peut toujours dire non. Et j'allais dire que l'Immaculée Conception, le fait que la Vierge Marie n'est pas le péché originel, n'est pas la tâche du péché originel, les conséquences du péché originel dans sa vie, la rend encore plus libre. Plus libres que nous, qui les avons. Donc, on voit bien, c'est de même que les saints sont plus libres que nous, parce qu'ils ont lutté contre le péché plus que nous. Et donc, ils ont laissé le péché moins les envahir. Et au contraire, le péché, c'est ça qui nous rend esclaves. Donc, oui, de par sa nature, la Vierge Marie est bien plus libre. Maintenant, la prédestination, le choix de Dieu, d'abord, premièrement, rappelons que Dieu veut choisir des intermédiaires pour se révéler, et donc, pour venir à nous, il est passé par elle, pour que, pour aller à lui, nous passions par elle aussi. Vous voyez, c'est vraiment, je trouve ça, une pédagogie d'amour, une profonde confiance que le Seigneur nous fait, à nous, créatures humaines, de vouloir passer, parce que, de fait, il n'a pas besoin de nous, il n'avait pas besoin de la Vierge Marie. Pourquoi pas penser, bon, ce serait un peu spécial, mais qu'il descende déjà tout fait, comme ça, bon, pourquoi pas, parce qu'en tant que tel, à Dieu, rien n'est impossible. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait, parce qu'il a voulu une vraie humanité, il est vraiment homme. Et donc pour avoir une vraie humanité, une vraie maternité, née de la Vierge Marie. Donc, du coup, c'est cette préparation, au fond, que Dieu a faite et qui s'est réalisée en Marie, c'est vrai qu'il y a un choix. Il y a un choix qui l'a appelée à aller plus loin, mais elle pouvait tout à fait dire non. Il y a des choix de Dieu, ou des appels de Dieu, où ce n'est pas forcément... je veux dire, Dieu, c'est, C'est le père Rainero Cantalamessa, vous le connaissez peut-être en tout cas de nom, hein, qui parlait du GPS, guidé par le Saint-Esprit. Donc le GPS, c'est-à-dire que quand vous avez tous un GPS, j'imagine, ou la majorité, et puis vous trompez de route, clac, 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 ça recalcule la route. Il dit, mais avec le Seigneur, c'est pareil. Je trouve l'image qui est bien, parce que l'objectif est le même, mais on recalcule la route. Mais l'objectif, c'est ce cœur avec Dieu pour toujours. C'est la sainteté. Et donc, en Marie, on aurait pu penser que, en Marie, en tant que telle, elle aurait pu dire non. Mais alors, dire non à la volonté, à ce qu'elle est apprêtée comme volonté de Dieu. Quand un ange se déplace et vous parle, à mon avis, ça doit quand même impressionner. Je n'ai aucune expérience mystique, contrairement à notre fondateur. Mais en tant que tel, bon, il y a une liberté, il y a une totale liberté de la Vierge Marie. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a été choisie. Il y a un choix de Dieu sur elle. Et c'est là où il faut voir, plus on répond au choix de Dieu sur nous, plus on est libre. Plus on est libre. Plus on répond au choix de Dieu sur nous, plus on est libre. C'est là où la tentation du démon, c'est de voir en Dieu un compétiteur, quelqu'un qui va verrouiller ma liberté. Et ça, c'est quand même en nous. Disons-le simplement, c'est en nous. On n'arrive pas vraiment à faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que tu veux ? Hein, ben voilà, on le voit vraiment comme celui qui va restreindre. Ben si c'est ta volonté, Seigneur, c'est pas la mienne. Non, ça peut être et ma volonté et la tienne. C'est pas ou, c'est et. Et donc Marie nous enseigne justement que la réponse à l'appel de Dieu, c'est ça qui nous plénifie. Alors, la vie aurait été haute de la Vierge Marie, mais il y a une plénification. Ça l'a emmenée bien plus loin que ce qu'elle aurait pu penser, mais bien plus loin. Et dans notre vie, c'est pareil. Les appels, parce qu'il y a des appels que le Seigneur nous lance. Je rappelle les mots, peut-être on y reviendra, etc. Mais les motions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on est à la veille de Pentecôte, travaille notre cœur. Il y a des choses qu'on ressent, il y a des idées qui nous viennent, il y a des motions, des mouvements de l'âme qui nous. On peut très bien les refuser, soit par péché, parce que, ou alors on n'est pas par inattention. Mais c'est sûr qu'il y aura une plénitude, une fécondité qui ne sera pas au rendez-vous. Au fond, tout le cœur de la Vierge Marie, le cœur de la doctrine sur la Vierge Marie, c'est la maternité divine, c'est la fécondité. Fécondité charnelle, mais fécondité aussi spirituelle. Et donc, c'est sûr que quand on voit que le Seigneur nous demande quelque chose et qu'on... y répondre, et que ça, parce que ça demande discernement, parce que c'est pas si simple que ça, de dire, ça vient de Dieu, etc. On essaye de voir un peu comment ça peut se passer, mais bon, c'est pas en tout cas simple pour nous. Mais du coup, à nous aussi de se poser la question, mais est-ce qu'on n'a pas aussi à nous interroger, est-ce qu'on fait vraiment confiance à cet appel? Ou est-ce qu'on le voit au contraire comme un limiteur de notre liberté? Bon, donc, c'est intéressant de voir Marie justement comme celle qui a fait confiance, qui n'a pas vu Dieu comme une menace. Alors nous, on le voit. Oui, mais nous, chez nous, ça reste quand même en arrière-fond un problème. Je veux dire, volonté de Dieu, ben du coup, oui, ma volonté. Voilà, tout de suite, on voit opposition. Mais non, c'est volonté de Dieu, c'est ce qui me plénifie, ce qui me rend plus libre. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est à accueillir cette volonté, comme elle se manifeste, après discernement, etc., mais à l'accueillir. Tout au long de l'ancienne alliance, la mission de Marie a été préparée par celle des saintes femmes. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse du malin, et celle d'être la mère de tous les vivants. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu comme impuissant et faible pour montrer sa fidélité à sa promesse. Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith, Esther et beaucoup d'autres femmes, Marie occupe la première place parmi ses humbles et ses pauvres du Seigneur, qui espère et reçoit le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille de Sion, par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle. Voilà, donc on voit bien que Marie, elle est précédée par aussi des femmes, parce que de toute la question des femmes qui n'étaient pas, qui étaient stériles. Il y a plusieurs exemples dans la Bible des femmes stériles. Et justement, et la fécondité vue comme un don de Dieu. La fécondité vue comme un don de Dieu. C'est vraiment, et donc du coup, c'est... Et au contraire, la stérilité, en tout cas pour Israël, la stérilité, même encore maintenant, malheureusement pour certains couples, mais la stérilité vue au contraire comme une malédiction. Mais ce qui est intéressant dans la Vierge Marie, c'est que c'est une autre fécondité. On parle d'une autre fécondité. De même que la fécondité du Christ. Il n'y a pas eu de descendance charnelle. Hein, il a la fécondité du Christ, une fécondité spirituelle, exclusivement. Mais de dire au fond, au cœur de la Vierge Marie, il y a cette maternité divine, que ce soit dans la préparation, en amont, le fait de l'Immaculée Conception, de même que dans les conséquences, dans l'Assomption, au cœur de ça, c'est la maternité divine, ça veut dire aussi que dans nos vies, au cœur de nos vies, recevoir l'appel du Seigneur, c'est aussi choisir cette fécondité dans nos vies. La vraie question pour nos vies, c'est est-ce que nous portons du fruit ? C'est pas facile de répondre. En tout cas, est-ce que je suis attentif justement au, parce que c'est la volonté de Jésus. Hein. Je vous ai choisi que pour vous alliez portiez du fruit, il y a un fruit qui demeure. Donc c'est vraiment, et ça, vraiment, on peut l'appliquer à la Vierge Marie, par exemple, cette phrase-là, évidemment, de façon excellente. Donc posez-vous la question, c'est ça, vivre avec la Vierge Marie, c'est se poser la question de la fécondité. Et cette fécondité, elle vient de la réponse de foi à la promesse de Dieu. Elle vient de la foi. Un Dieu qui appelle, un Dieu qui veut toujours notre fécondité. L'Immaculée Conception. Pour être la mère du Sauveur, Marie, pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche, LG, c'est le Lumen Gentium, c'est le concile, fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854 par Pie IX. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. L'Immaculée Conception. Et 4 ans plus tard, donc 1854, le dogme de... Mais qui était déjà dans la foi du peuple chrétien depuis très longue date. Parce que justement, le péché se transmet par génération. Donc il fallait bien une engendrer le Fils de Dieu, il fallait bien une âme pure, je veux dire une pureté, parce que ça, on ne pouvait pas imaginer que Jésus, le Verbe de Dieu, prit une humanité qui elle-même était marquée par le péché, ça n'aurait eu aucun sens. Et donc c'est intéressant, c'est que par anticipation, eh bien, Marie fut protégée dès sa conception du péché originel. Et vous faites vous-même le rapport avec Lourdes. En 1858, la petite Bernadette, qui a des visions, alors qu'elle ne va pas au catéchisme, qu'elle ne sait pas lire et écrire, qu'elle est mal famée, elle n'est pas affamée et mal famée dans le pays, etc., eh bien, elle reçoit la faveur de la visite de la Vierge Marie qui lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et quand l'abbé Peyramale, elle arrive sur... Parce que rien que ça, Immaculée Conception, il faut comprendre, une petite fille comme ça, elle a 14 ans, c'est quand même, pour nous, c'est pas simple. Alors, vous imaginez, bon, bien sûr, pas du tout au courant que 4 ans plus tôt, il n'y avait pas Internet à cette époque-là, il y avait le dogme. Elle n'avait pas fait son catéchisme, en plus, donc. Et elle pousse la porte de l'abbé Peyramale, etc. Je suis l'Immaculée Conception. Coup de tonnerre. Voilà ce que m'a dit la dame. Et construisez une chapelle. Vous connaissez l'histoire de Lourdes, qui est une très très belle histoire. Mais je trouve vraiment, il y a eu comme une confirmation du ciel par cette apparition de la Vierge Marie à Lourdes, de ce que portait l'Église en tout temps. Cette confiance qu'au fond, pour accomplir la plénitude, Dieu commence, Dieu travaille les commencements. C'est un Dieu des commencements. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est l'Immaculée Conception, c'est qu'il fallait déjà préparer dès le commencement le corps et l'âme de la Vierge Marie pour qu'elle puisse recevoir l'incarnation du Fils de Dieu. Donc ça a été par anticipation, c'est comme par anticipation, c'est parce qu'on dit oui, on dit que la Vierge Marie c'est la première des sauvés. On dit mais comment elle va être sauvée si Jésus n'était pas mort sur la croix? On peut se poser la question. Alors, mais en même temps on a vu peut-être je sais pas si vous étiez là, mais à un moment donné on avait vu sur la justement la question du temps, sur l'éternité, etc. En Dieu, il n'y a pas de temps. On est aujourd'hui aussi sur la croix. Donc on peut très bien imaginer que les grâces données par Jésus sur la croix après, mais quelque part, parce que c'est le Fils de Dieu, Dieu a toujours été sur la croix. Donc on peut très bien penser que ces grâces-là sont données de façon extraordinaire, parce que la mission est extraordinaire à la Mère de Dieu. Donc tout ça, c'est un peu étonnant, parce qu'on se dit, mais comment, mais c'est rétroactif, hein, contrairement aux lois qui normalement ne doivent pas être rétroactives, là, on revient, mais rétroactif pour nous, parce que nous sommes dans le temps. Mais pour Dieu, c'est pas rétroactif, ça ne voudrait rien dire pour Dieu. Bien sûr, ça n'aura aucun sens. Donc, du coup, c'est la première des sauvés. L'Immaculée Conception, c'est la première des sauvés. C'est elle qui a été préservée de la faute originelle, des conséquences de la faute originelle. Donc ça, c'est ce que nous croyons, justement, en vue de, c'est ce que dit très bien le texte, en vue des mérites de Jésus-Christ, du sauveur du genre humain, préserver intact de toute souillure. C'est-à-dire, en vue de donner le sauveur, elle a été préservée. De même que quand Dieu nous appelle à une mission, il nous prépare pour cette mission. Et du coup, pour nous, c'est bien de pouvoir faire nous en rappeler que au fond, la mission à laquelle nous sommes appelés, Dieu nous en rend capables. Et c'est toujours pareil, ça. Dieu nous rend capables de ce à quoi il nous appelle. Il y a une... Je me demande si c'est pas le 26e dimanche du temps ordinaire qui dit « Dieu qui nous permet de t'offrir tes propres dons ». C'est ça, Dieu qui nous permet de t'offrir tes propres dons. Il nous donne quelque chose et il me dit « Donne-moi ce que je t'ai donné ». Mais ça t'appartient encore, mais réoffre-le-moi. Mais il nous donne de façon à pouvoir l'offrir. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on pourrait offrir de par nous-mêmes? Mais là, c'est pareil. À la Vierge Marie, de sa conception, du commencement, parce que c'est le Dieu prépare les commencements, voilà, le commencement est très important. C'est toujours très important, le commencement. Et donc, du coup, le commencement fait que il lui a donné cette grâce particulière. Alors qu'elle elle-même avait des parents qui étaient pécheurs. Donc, de fait, si on suivait la logique de la génération, elle aurait dû transmettre la faute originelle. Ils auraient dû, des parents, transmettre la faute. Donc, il y a eu une grâce particulière. Mais une grâce c'est la vie de Jésus qui éclaire la vie de Marie. Oui, c'est parce que Jésus est sauveur du genre humain et qu'il est fils de Dieu qui a pris. Du coup, on comprend que, voilà, comme bien souvent, on comprend de façon on comprend j'ai perdu le fil. Après coup on comprend les grâces qui nous ont été données. C'est après coup, c'est ah oui d'accord, ça m'a été donné parce que ceci, parce que cela, parce que je suis passé, d'accord, mais c'est après coup. Et je trouve que c'est beau, justement, de voir comme Marie, elle a constaté en elle, voilà, qu'il n'y avait pas, alors qu'elle voyait dans les autres, et certainement elle pensait que tout le monde était comme ça, comme une enfant, elle a constaté en elle qu'il n'y avait pas de trace, le péché n'avait pas prise. C'est ça que ça veut dire. Elle a peut-être été tentée, mais comme en Jésus, le péché n'avait pas prise. Le démon n'avait pas prise en Marie. Mais c'était pour... C'est, toute la vie de Marie est finalisée. Toute la vie de Marie est finalisée par cette maternité divine. Et de même, toutes les grâces qu'elle a reçues sont les conséquences d'eux. C'est ce dessein de salut. Donc, cette sainteté éclairante, le numéro 492, cette sainteté éclairante absolument unique, dont elle est enrichie dès le premier instant de sa conception, lui vient tout entière du Christ. Elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de Jésus, son Fils, plus que toute autre personne créée. Le Père l'a bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Il l'a élue en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. Donc là, c'est Éphésiens, c'est la citation d'Éphésiens au chapitre 1, versets 3 et 4. Voilà, ça s'applique à la Vierge Marie. On dit, voilà, ça, tiens, ça nous aide dès avant la fondation du monde, il nous a choisis, c'est ce que dit ça, pour être sainte et immaculée en sa présence. Saint Paul, je pense, parle de l'Église, quand il parle de ça, mais en fait, qui dit Église dit Marie. Marie est aussi mère de l'Église. Donc, ce qu'on dit de la Vierge Marie vient éclairer ce qu'on pourra dire de l'Église. Oui, donc c'est comme le carrefour de beaucoup de choses, la Vierge Marie. Et donc, ce qu'on voudra affirmer de l'Église, il faudra le vérifier aussi dans la Vierge Marie. Est-ce que dans la vie de la Vierge Marie, ça a un sens? Et la vie de la Vierge Marie est complètement liée au destin de Jésus. Donc c'est bien de... Les pères de la tradition orientale, au 493, appellent la Mère de Dieu, la Toute Sainte, Panagia. Il la célèbre comme indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, formée comme une nouvelle créature, par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Voilà. Donc, voilà ce à quoi Dieu, au fond, avait destiné la créature humaine. Je trouve c'est beau, c'est de dire qu'il y a toujours une deuxième chance. Il y a toujours une autre possibilité. Il y a toujours une d'avancer, même si, encore une fois, comme ce GPS, même si on s'est trompé de route, même si on est allé dans le mur, même si on a pris des voies qui n'étaient pas les bonnes à un moment donné de notre vie, ou des personnes aussi autour de nous, on se dit, mais ils vont, en faisant ce choix-là, ils vont aller dans la souffrance, c'est pas possible, ça va pas marcher, etc., et peut-être que c'est juste. Mais même si on s'est trompé, ben voilà, Dieu redonne une nouvelle chance. C'est ça le salut. Et c'est ça la Vierge Marie. En Marie, on voit que Dieu ne se lasse pas d'aimer. Et Dieu, voilà, c'est... Et je trouve ça vraiment... C'est une source d'espérance. La contemplation de la Vierge Marie est une source d'espérance extraordinaire. Extraordinaire. Pour nous qui sommes pécheurs, qui nous sommes... Le péché a pris en nous, etc. Et on est loin d'être indemne de toute tâche de péché. Et on est loin, malheureusement, d'être pétri du Saint-Esprit, même si nos corps sont les temples du Saint-Esprit. On a reçu ce Saint-Esprit au baptême, la plénitude des dons à la confirmation. Ben voilà. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a un combat spirituel en nous. Ben, ce combat spirituel, mais si on venait à pécher, rappelez-vous que Dieu est plus grand que votre cœur. Hein. C'est ça que c'est très beau. Et ça, on voit en Marie. Dieu est plus grand que notre cœur. À quoi il répond par le mal? Il répond par l'amour. Et pas par une nouveauté, par quelque chose de nouveau. Il ne répond pas au mal par le mal. Le mal que nos premiers parents ont fait, on a vu ça pour le péché originel, cette désobéissance par rapport au plan de Dieu, je vais les faire payer, tu vois, tac, on va faire comme ça, etc. Ben nous, c'est pas, Dieu n'est pas comme ça. Il redonne, il y a un surcroît. Quelque part, il corrige le mal par une surabondance. Là où le péché a abondé, a surabondé la grâce. Ça, par exemple, on peut le dire de la Vierge Marie. Là où le péché a abondé, pas en Marie, mais en Ève, a surabondé la grâce en Marie. Oui, donc c'est toujours bien pas mal de pères de l'Église qui ont fait justement une lecture de l'Évangile en l'appliquant à Marie, ou lecture de Saint Paul. Épîtres, etc. Mais je trouve ça très beau justement, cette immaculée conception Parce que c'est une source d'espérance pour nous. C'est une vraie source d'espérance. Qu'il me soit fait selon ta parole. À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut, sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit-Saint, Marie a répondu à l'obéissance de la foi. Certes que rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Bon, c'est un petit peu long comme phrase, mais voilà, c'est... Elle n'a pas douté. Elle a dit, parce que certaine que rien n'était impossible à Dieu. Elle a fait une totale confiance dans cette parole du Seigneur et elle s'est livrée intégralement, je trouve ça très beau, elle se livra intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance avec lui. Tout ça, c'est très fort, ces mots-là. Hein, tout est en Marie relatif à Jésus. Pour ça qu'on dit, mais bon, bah, parfois avec nos frères protestants, on est embêtés, etc. Parce qu'on dit, oui, mais vous croyez en Marie, c'est de la mariolatrie, qu'est-ce que c'est ce truc-là, etc., etc. Non, on croit en Marie comme personne. C'est une déesse, non, c'est une personne humaine, c'est tout à fait clair. Mais, de même qu'on croit au saint, pareil, c'est la logique de l'incarnation. Dieu passe par Jésus qui est l'unique médiateur, mais Marie est médiatrice dans le médiateur. Et les saints sont médiateurs dans le médiateur. Cette confiance quand même dans la nature humaine que n'a pas le protestantisme. Le protestantisme a une méfiance sur la nature humaine. Ça, c'est tout à fait clair. Ça, vous verrez le Calvin, Luther, etc. Il y a une méfiance. Il n'y a pas de hiérarchie, par exemple, dans le protestantisme. Une hiérarchie un peu administrative, mais pas au plan théologique. La construction de l'Église, par exemple, est tout à fait différente, la manière de voir l'Église. Nous n'avons pas peur de dire que l'Église passe aussi par des médiations humaines, qu'est la hiérarchie de l'Église. Médiations qui sont fragiles, certes, mais Dieu aussi a choisi une médiation. Hein, alors, en Jésus, bien sûr, et en Marie, et puis par les saints, etc. Donc, c'est aussi... avoir une dévotion mariale, c'est une vraie confiance dans la nature humaine. Je trouve que c'est... Malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce que la capacité de haine, de violence, de mensonge, d'injustice dont on est capable, eh bien, Dieu ne se laisse pas atteindre dans la confiance qu'il nous fait. C'est ça la Vierge Marie. Il ne se laisse pas atteindre. C'est quand même très beau. C'est quand même très, très fort de voir ça. Alors que nous, on se laisse tout de suite, dès qu'on nous marche sur le doigt de pied ou on nous passe devant quand on est à la queue, puis il y a quelqu'un qui nous passe devant, tout de suite, il y a toute une violence formidable, parce qu'on n'est pas Dieu aussi. Alors, quand on est Dieu, je pense qu'un certain nombre de choses sont plus faciles, je suppose. Donc, mais voilà, c'est la bonne nouvelle. Marie, c'est le signe. Comment on vit comme disciple de Jésus? C'est en répondant au mal par le bien. Et Dieu a répondu au péché par Marie. Par une surabondance de grâce. Ça, c'est l'espérance chrétienne aussi. Et c'est vrai que la perte de l'espérance chrétienne rend nos sociétés plus violentes. Ça, c'est sûr. Parce que si on ne peut pas espérer justement que l'amour a une capacité de transformation considérable, ben on va pouvoir espérer l'amour de Dieu, bien sûr, pas notre amour de générosité qui est tout petit, hein, mais l'amour de Dieu peut tout transformer. Ben, si on ne croit pas ça, bien sûr que tout ce qu'on voit qui est désespérant, pour le coup, ça nous rend encore plus violents. Ça, la perte de l'espérance chrétienne, hein, ça, c'est quand même pas rien. Hein. La perte de la pratique chrétienne, ça a des conséquences dans nos vies, dans nos sociétés. Ça a vraiment des conséquences. Hein, soyez vraiment attentifs à ça. Hein, la sécularisation. Alors, il y a des gens qui font du bien, bien sûr, qui ne sont pas croyants, mais nous, ce n'est pas pareil. Le fait de croire aux promesses de Dieu, comme Marie a cru, bien, ça nous fait agir au-delà même de ce qui peut être visible, de ce qui est possible au plan humain. On fait confiance. Dieu ne se laisse pas atteindre par le mal. Non, Dieu ne se laisse pas atteindre par le mal. Il ne se laisse pas arrêter dans l'amour par le mal. Il répond au mal par le bien, par une surabondance. Ah oui, Dieu, oui, ça c'est aussi vrai. Dieu ne se laisse pas atteindre dans la confiance qu'il nous fait. Voilà, merci. Bon, voilà, mais. Voilà, c'est quand même fort, ça. Hein. Et en Marie, on voit ça. Il ne baisse pas les bras face à la nature humaine. Pourtant, il y aurait largement de quoi baisser les bras. Et aujourd'hui, comme maintenant, comme toujours. Mais justement, pour nous, avoir une spiritualité mariale, c'est aussi faire confiance que Dieu continue d'agir dans la personne humaine. Et du coup, voilà, du coup, on comprend très bien pourquoi c'est tout un. On fait confiance aussi que Dieu passe par des médiations que sont les prêtres, des médiations que sont des intercesseurs que sont les saints. C'est tout un. C'est une logique de confiance. Et c'est vrai que les protestants, c'est pas dans cette logique-là. En tout cas, c'est tout à fait autre chose. Alors, ils sont disciples de Jésus, etc., mais d'une autre manière. Mais avec les orthodoxes, de ce côté-là, on se retrouve tout à fait. Maternité divine de Marie, appelée dans les évangiles la mère de Jésus. Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit-Saint dès avant la naissance de son fils comme la mère de mon Seigneur. Hein, c'est Élisabeth qui lui dit ça, que me vaut la visite de la mère de mon Seigneur. En effet, celle qui a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Église confesse que Marie est vraiment mère de Dieu. Hein, je vous en avais parlé, pourquoi elle est mère de Jésus, mais elle n'est pas simplement mère de Jésus. Elle est mère de Dieu. Théotokos. Ça, c'est au tout début, c'est les premiers conciles de l'Église. Théotokos, alors comme on dit, mais comment ça se fait que Dieu n'a pas de mère? Alors, on dit, ça veut dire quoi, mère de Dieu? Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mère de Dieu, ça veut dire, elle est mère du corps, et le corps dit la personne, et la personne qui soutient ce corps, qui habite ce corps, pour ainsi dire, c'est la personne de Dieu. Donc on fait le raccourci, elle est mère de Dieu. Oui, mais ça, si on ne comprend pas, si on ne voit pas le lien avec le corps, justement parce qu'elle est mère du corps, ça on ne peut pas lui enlever ça. Elle est mère du corps, comme toute mère, mais elle est mère de la personne. Quand vous avez vos enfants, vous ne dites pas je suis mère de ton corps. Non, je suis mère d'Elisabeth, je sais pas quoi, de Gaston, etc., le prénom de vos enfants, mais de sa personne. Je suis pas mère que du corps. Donc c'est intéressant de voir que le fait de donner le corps, c'est aussi ça pour la personne humaine, mais là, la personne de Jésus, c'est différent parce que c'est une personne divine. Donc par le corps, il est aussi personne, elle est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu. C'est la maternité, c'est très fort parce qu'elle est mère de celui qui est fils de Dieu. Elle est mère selon la chair. Pas de toute éternité, évidemment. Ça ne voudrait rien dire. On va s'arrêter là, mes amis, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé. Donc, comme d'habitude, il y a les confessions, l'adoration au palier et la messe à 11h30 à la Grande Chapelle. Et ensuite, suivez de l'office des frères et ensuite le repas ici en silence.